Bienvenue à tous, bienvenue du coup dans le podcast de la Forge Ludique Forge FM. C'est notre numéro de décembre 2021. Aujourd'hui, on va parler de la peur. Yes, alors aujourd'hui on retrouve autour de la table du coup nos compères habituels, hein. On a maintenant l'habitude de les voir, donc on a Kirou, bonjour Kirou.
Salut, salut.
On a Greg.
Hello.
Et Dim.
Salut.
Ah bien, t'as pas explosé nos tympans aussi, bravo. On va commencer par notre habituel petit tour de table de c'est quoi notre kiff du moment, hein. On va commencer par Greg.
Allez, bah c'est parti, bah, le kiff du moment c'est Malifaux, sans spoiler... On a tous craqué pour une bande, sous l'impulsion du Hammer Time. Donc ben, mon kiff, ça a été de peindre ça... alors, je devrais peut-être pas spoiler, mais oui, j'ai tout terminé.
Spoiler pour tous ceux qui sont encore
donc,
dans
ceux le... qui n'écouteront pas le podcast, ben, ça se fera vite, quoi, voilà, on le verra. J'ai mis aucune... Enfin, j'ai pas mis de photo terminée, histoire de pas décourager ceux qui ne se sont pas encore complètement lancés.
Sachant que ça a été commandé il y a un mois.
Deux semaines.
Trois semaines.
On l'a reçu il y a trois semaines.
D'accord.
Donc j'ai peint 80 points. Voilà. 80 points plus les piliers pour jouer, plus les jetons skim. Voilà, c'est terminé.
C'est terminé, suivant.
Alors c'est quoi le prochain jeu ?
Bah justement, ouais, donc mon kiff de ce matin, c'était de faire l'inventaire des décors que je dois peindre. Et je vais me donner un défi qui est un mois, full décor. Donc je vais faire un maximum de décors pendant un mois. Voilà, c'est ça mon kiff du moment.
Yes.
En peinture, hein. Après pour le jeu, bah, découverte Malifaux. Voilà.
Ok Dak, merci Greg. Kirou ?
Bah moi c'est aussi Malifaux par contre. Dans 3 semaines moi j'ai réussi à monter mes 35 points. C'est quand même déjà pas mal.
Déjà bien.
Et non c'est un bon petit jeu bien sympa effectivement qui démarre la forge. Je pense qu'on a au moins pour quelques mois sur 2022. Et voilà c'est ça mon petit kiff.
C'est quoi comme bande toi?
Moi, j'ai pris Mei Fei, donc qui peut jouer en Ten Thunders ou en Arcaniste.
Donc plutôt chinois, japonais.
Exactement. Mais je vais jouer plutôt des araignées. Et...
Ah, c'est les fameux araignées démons, les Oni araignées là.
Non, c'est des araignées mécaniques.
Ah, araignées mécaniques, ouais. D'accord.
Steampunk, quoi.
C'est sympa, plutôt steampunk, ouais. Ouais.
Ok, plutôt steampunk. Parce qu'il y a aussi une bande avec des araignées comme ça.
Vapeur et Kung Fu.
Du steampunk. Ah, des araignées Non. Sans doute, ouais, je sais pas.
Des centaures araignées, en fait.
De toute façon, dans le registre de l'horreur, je crois qu'il manque pas grand chose à Malifaux.
Ouais, ouais, non.
Un truc horreur.
Mais j'ai regardé juste les fous religieux. Ouais.
Et toi, Dim? Alors, un petit peu spoiler, je crois qu'il va parler de Malifaux.
Non, même pas. Bah, pour être un peu plus original, oui, j'ai craqué mon kiff figurine du moment, ça reste Malifaux, c'est ce que je peins en ce moment. Plus la guerre de 30 ans, Pike and Shot. Même si on n'a pas éprouvé la règle, je suis quand même assez content d'avoir remis le pied à l'étrier sur l'historique. Mais ça paraît con, mais je me suis acheté un mélangeur à peau de peinture.
Un mélangeur à peau de peinture.
Ouais, ouais, un mixeur, un vertex, quoi.
Ah, un agitateur de
un agitateur, ouais, de... Alors, c'est...
Ah, c'est pour ça que tu cherches les billes en acier?
Ouais, c'est pour ça, ouais. Ah, en d'accord. Fait, c'est un truc que j'ai... Ça fait un moment que j'en voulais un. C'est un truc de tatoueur, à la base, hein, pour mélanger les encres de tatouage. Mais c'est ça défonce. Alors, ça paraît con comme ça, mais je me faisais chier à secouer des pots de peinture que j'avais depuis longtemps dans mes réserves. Et là, du coup... ça marche trop bien. Et alors pour les encres et les contrastes, une contraste qui est pas trop, qui est resté longtemps au magasin, tu passes dedans, brrr, ça vibre, ça enlève tous les dépôts au fond, t'as un pot de contraste qui est nickel quoi. Voilà, c'est mon petit kiff du moment.
Petit kiff.
Ouais ouais.
Donc Dim il joue avec un vibreur.
et faire du NMM, voilà. C'est
ouais, bah, j'ai vu, ouais, était cool ta figurine. Ouais. Alors c'est quoi, Lady Justice, elle?
Lady Justice, yes. Bon, les fous religieux.
Oui oui.
Le droit. La règle,
comme ça.
L'ordre.
L'ordre. Voilà.
Bon, ouais, moi, je vais pas être non plus très, j'ai pas le mot, mais innovant en tout cas. Donc ouais, c'est aussi Malifaux. Hein. Ce que j'ai sur mon atelier pour l'instant, c'est du Malifaux. Donc moi, c'est la vieille Zoraïda avec ses hommes arbres. Je suis à peu près au niveau de Kirou, donc je les ai montés et je les ai texturés les socles. Hein. Il y a pas mal. Et en même temps, j'ai quelques impressions 3D qui tournent. Du coup, j'ai la table du Bayou qui suit un petit peu.
Qui chauffe.
Ouais. Yes.
Ah, c'est bien.
J'espère être dans les temps pour le 31.
C'est 31 décembre, c'est ça?
Ouais, c'est 31 décembre.
Pour les 35 points.
J'en parlerai à la fin. Ah oui, il y a un défi 31.
Ouais, défi 31 pour Manifo. Le défi 31. C'est 31 décembre, on doit finir de peindre 35 points. Et pas 92 ou je sais pas
combien. 80.
Mais t'as dit qu'on jouait avant.
Pardon ?
T'as dit qu'on jouait avant.
Ouais, on s'est lancé un mini défi avec Dim, c'est d'essayer d'avancer à mort pour finir pour faire notre partie la semaine prochaine.
Hein. Ouais. Ça risque d'être un peu tendu. Hein.
Bah, ils sont montés. Ils sont montés.
Moi, ça commence. On n'y est pas loin, mais bon.
Ok, Dak, ça marche. Bon, alors, merci à tous pour ce petit tour de table. On va commencer. Alors là, mes chers auditeurs, il y a un grand stress parce qu'on n'a pas décidé du tout d'ordre. Donc, en fait, devant moi, ils sont tous stressés. Qui va passer en premier?
Attentif. Stressé, c'est un bien gros.
C'est vrai? Bah vas-y, Greg. Ramènes, bim.
Ça, c'est fait.
Alors, dans le dernier podcast, on avait abordé un peu la thématique de la peur à travers la vente de figurines. Donc, la thématique de ce podcast aujourd'hui, c'est la peur. Et donc, savoir si on avait raison d'avoir peur de vendre des figurines de l'armoire qui appartiennent à la forge aux enchères. Donc, on a été chercher des figurines OOP, majoritairement situées dans l'univers de Warhammer 40 000, donc de marque Games Workshop. Et je me suis lancé le défi de voir ce que ça valait réellement. Parce que les expertises à l'intérieur de l'assaut étaient très diverses. Il y avait des prix qui...
Ça vaut 50 euros.
Il y avait des prix qui m'annonçaient qu'on allait pouvoir acheter plein de trucs avec ça. Donc, moi, j'avais un peu peur de me retrouver avec une désillusion et puis de consacrer beaucoup de temps à ça pour, au final, en tirer un bénéfice qui ne dépasserait pas de quoi acheter un pot de contraste. Bon, il s'avère que j'ai mis 30... J'ai mis 30 références sur le...
Ah oui, quand même, 30 références.
J'ai mis 30 références. Donc, on va jouer un petit jeu, hein, vous connaissez le petit jeu, c'est le jeu de la devinette. Donc, il s'agit de 30 figurines OOP que j'ai mis individuellement. Ce sont tous des Space Marines, il y avait des sergents, des armes spéciales, il y avait de la moto, il y avait du Terminator aussi en plomb. Les figurines sont toutes, soit partiellement, soit complètement en plomb. Sur 30 références, votre estimatif du nombre de ventes réussies.
De vente terminée, c'est
vente,
ça
vente réussie, où j'ai eu
une offre.
Une offre.
Moi, je dirais 30.
Tu dirais 30.
Ouais, moi aussi.
30.
Tu dirais t'as tout vendu.
Oh non, moi, j'aurais dit 12.
Au prix de base, t'as dû les vendre, même si c'est... Parce que tu les as...
Alors, prix d'appel, j'ai toujours mis 1 euro.
Ouais, voilà. Donc, à mon avis, t'as tout vendu.
Quasiment
tout vendu, ouais. Entre 28 et 30, j'irais.
Ouais, allez, 20.
20. J'en ai vendu 13.
Merde, mon 12 était pas mauvais, merde.
D'accord, j'en ai vendu 13.
Alors, les radins.
Alors, c'est pas des radins. En faisant l'analyse de ce qui a été vendu ou pas, c'est tout simplement les figurines qui sont jouables. Le public français, je le rappelle, eBay aujourd'hui est complètement verrouillé. L'achat à l'international, ou en tout cas, Transmanche, il n'existe plus, et Transatlantique, c'est encore pire. Donc, aujourd'hui, j'ai vendu à un Français. J'ai même vendu à quelqu'un de local. J'ai vendu à un Lillois.
Ouais. Donc, c'est bon,
les 13 en fait.
Les 13, il n'y a que lui qui a acheté. Je lui ai tout remis en main propre. Il m'a payé en PayPal instant au moment où j'ai remis l'objet.
Ça, c'est bien, t'as évité le casse-tête du colis, du machin.
Ouais, voilà. Donc, ça m'a permis aussi, moi, de m'économiser du temps. Et donc, j'ai vendu 13 objets. Sur les 13 objets, là, je vais pas jouer de vignette, c'est un peu trop complexe. La plupart des objets ont été enchéris au prix de base. Et il y a une ou deux références qui, elles, ont relevé le gant. J'en ai discuté avec le gars à qui j'ai vendu, et je lui ai demandé pourquoi sa référence avait monté. Pour le côté emblématique, représentatif d'une version, voilà, que le gars, c'était la figurine de son enfance, qu'il n'avait pas pu acheter à l'époque. Donc on trouve tous ces éléments-là, et si on n'est pas là-dedans, ben, la figurine, on va dire, rare, pour le public français, elle n'existe pas. On n'est absolument pas dans la collectionnite, où le piéton à 15 balles en plomb suscite un quelconque émoi chez le Français.
Donc le Thunder Rock en plomb est parti à 15 euros, quoi. C'est pas mal quand même. Hein.
Ouais, non mais franchement, on n'est pas touché par ça, quoi. Ah, oui. On va regarder ça de loin, mais mettre de l'argent, j'ai pas la sensation qu'il y a un vrai public pour ça, quoi. Mm. Voilà. Donc la figurine qui a matché le mieux, c'est Abaddon.
Ah ouais, il était là.
Le fléau.
Ouais. Donc, Abaddon dans sa version plomb, un Eagle Up, qui était présenté juste sous couché en blanc. Et lui, il est parti à 10,50€.
Ah ouais, c'est la version petite en fait où il y a les serres quasi.
C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc c'est une version qui est pour l'époque qui était sympa.
Pour ceux qui écoutent en podcast, vous n'avez pas l'image, et pour ceux qui sont sur YouTube, non plus.
Ouais, bah vous tapez Abaddon. Je crois que c'est une version qui est sortie
dans les années 90, je pense.
Ouais, dans les années 90.
94-95.
Ouais, Abaddon en plomb. Voilà, vous pouvez trouver cette figurine-là
Et du coup, t'as eu combien d'enchères? Parce que du coup, c'est monté jusqu'à 10 euros.
Alors, j'ai eu 9 enchères.
Combien à se battre
et... J'ai eu 9 enchères, ils étaient 3 à se battre.
Ok. Ah oui. Voilà. Ouais, donc il la voulait, quoi, quand même.
Ouais, il y a 3 mecs. Ouais. Et la deuxième figurine, qui elle est une figurine qui n'avait pas trop d'équivalent dans la version aujourd'hui. Il y en existe une qui a été ressucée. Parce que l'arrivée des Primaris et les changements de version dans Warhammer 40 000 entraîne une obsolescence avérée dans le gameplay des anciennes références de Space Marine. Ouais, donc la plupart des figurines qui étaient plutôt en très bon état, elles étaient juste montées et même pas sous-couchées, donc complètement exploitables pour la peinture, elles sont parties à 1 euro. La plupart des figurines sont parties à 1 euro.
Au prix d'envoi.
Le mec à 1 euro. Et ensuite, il y en a une autre sur laquelle il y a eu battle, c'est le Tech Marine. Un Tech Marine full plomb que le gars a acheté et il était en battle avec d'autres personnes. C'est d'autres personnes qui sont battues. Donc, mais toujours des Français. Donc là, j'ai eu que 3 enchères. C'était lui qui a clôturé. Il s'est mis en mode sniper, en fait. Il a enchéré
la dernière seconde. Il a attendu la fin.
Ouais, voilà. Il attendait les dernières secondes. Et là, c'est une figurine full plomb qui peut être jouée à partir du moment où tu la resocles. Elle passe assez bien, même en tant que Primaris. Et elle est partie à 6,50€. Donc, toute cette... La prise de vue, l'export sur eBay... Le côté, faut guetter, faut regarder un peu ce qui se passe, faut éventuellement répondre aux questions des gars. On en s'est quand même fait 29 euros. Alors 29 balles, c'est pas non plus un truc de fou.
Pour 13 figurines.
5 pots de contraste.
Ouais, ouais. Alors, le véritable problème, c'est que ça m'a quand même pris 3 heures de faire ça. Ça valait pas le coup.
Autant les mettre en démo peinture pour les prochains événements.
Alors je pensais en faire des lots, en fait. Ouais. En fait, les figurines qui sont, on va dire, un peu emblématiques, qui ont un peu de cachet. Bon, par exemple, le capitaine Abaddon ou le Tech Marine, en faire un lot de tombola groupé ou des choses comme ça, plutôt que d'aller chercher un peu de crypto-moula sur eBay, où ça fait chier.
Ou d'en faire des trophées, tu sais, tu les mets sur un truc en bois.
Ouais, et pourquoi pas.
Tu les fais peindre par un mec de la forge. Et...
Ouais, éventuellement.
Bon. Ça, tout ce qui demande du temps, j'ai tendance à plus le faire.
Non. Ou alors, est-ce que
ami auditeur, au prochain Hammer Time, du coup, on pourrait peut-être gagner du OOP Warhammer 40. Ouais.
Ça aurait peut-être valu le coup de. Enfin, après, t'en as qui te restent. Je sais pas, t'en prends une dizaine, là, si t'en avais 30, t'en as vendu 13, tu prends t'en prends 10 qui restent, tu fais un lot. Et tu tentes de vendre le lot directement en un seul truc, pour voir les enchères.
On va tenter ça.
Après, je me dis, de toute façon, c'est là, ça dort.
Tu n'as pas de chance à partir. Hein.
On verra ce que ça donne. En tout cas, on parlait de la crainte de ne pas bien vendre. Bon, bah voilà, la crainte, elle est avérée.
Elle est là.
Je vous le dis.
T'as même pas 50% de vente.
C'était une peur qui était quand même justifiée.
C'était quoi l'estimation la plus haute des membres de la Forge?
Alors, l'estimation pour tout le lot, on tournait les 200 euros.
Oh! Bah, ils auraient dû payer, hein. C'était qui?
Ouais, je donne pas de nom.
Hein. Ils peuvent pas les acheter, ce serait plus simple.
Après, on n'a pas touché les Anglais, donc peut-être que les Anglais auront acheté réellement plus cher. Le mec va peut-être vendre en Angleterre, j'en sais rien.
Et après, c'est long à faire aussi, hein, mais je sais qu'il y a un groupe sur Facebook, c'est Old Trading Warhammer ou une connerie comme ça. Ouais. Où je pense que là, pour le coup, pour les vieilleries comme ça, t'as moyen de bien les vendre, genre 5 livres pièces ou un truc comme ça.
Mais bon,
c'est
alors,
c'est pareil. Hein.
Voilà, vous connaissez mon niveau d'anglais. Ouais. Je vais pas vous faire de démonstration. Il fallait que ce soit moi qui porte le truc.
Tu fais un huglot pour la prochaine.
Mais je sais qu'à l'époque j'avais récupéré sur une braderie un lot de plein de figues avec des trucs que j'avais gardé, des trucs qui m'intéressaient pas. Et j'avais vendu à l'unité notamment des Terminators ou des trucs comme ça. J'avais vendu des trucs 10-15€. J'avais même envoyé un truc en Suède. Le mec il m'avait dit c'est le seul qui me manque dans ma collection machin. Et j'avais fait un envoi. Limite il y avait autant de frais de port que le.
C'est marrant parce que j'ai
ce qui me payait en figurine en fait.
J'ai vendu des trucs que j'avais acheté au Crisis aussi, un Abaddon en métal, enfin que des vieux trucs, et je l'ai vendu à un mec en Suède donc ça tombe, c'est exactement
c'est le même mec
qui fait une collecte.
Ouais, non mais il y a des gars qui sont vraiment
accro à ça. Ouais. Bon là, on n'a pas trouvé le public.
Il n'y en a pas beaucoup.
Ouais. Voilà, il n'y en a quand même pas beaucoup, donc bon, on a pris quand même des sous, hein, c'est pas zéro. La Forge c'est quand même enrichi de 29 euros, ça a permis d'acheter 2-3 bricoles.
Bon, après t'as les frais...
Ouais, ils étaient assez réduits, ça allait, là. Ouais. Ouais, ça allait.
Tu peux tomber sur des offres, de temps en temps ils font des offres à terre. Hein,
et puis ben, je reviendrai vous voir pour l'actualité de la Forge. Voilà. Donc une question aussi pour terminer sur la rubrique écho. Une petite question qui m'a été posée sur un Discord. On a vu me solliciter en me disant une question un peu piège, en disant quel est aujourd'hui selon vous le jeu le plus inabordable financièrement? jeu de figurines. Hein,
inabordable.
Donc, inabordable. Alors, financièrement,
je vais dire.
Kingdom Death Monster.
Ouais, pourquoi?
Pourquoi? En fait, pour moi, déjà, les boîtes sont chères, ouais, de base. Et elles sont en édition hyper limitée.
Elles sont en rupture tout le temps.
Elles sont en rupture dans l'heure, en fait, où elles sortent. Et okay, elles coûtent un bras.
Ok, ça coûte très cher.
C'est des belles figurines.
C'est des figurines qui défoncent grave leur mère. Avec tout leur respect aux mamans.
Ouais, ce que j'allais dire.
Mais ouais, non, si, elles sont vraiment jolies. Mais par contre, ils coûtent super, super, d'accord, super cher.
Le prix d'appel, donc il y a une boîte de base.
Mais c'est un plateau, ça, non?
Ouais, enfin, c'est un plateau. C'est un plateau avec des figurines.
C'est un plateau. Mais donc, du coup, tu tombes dans le milieu de la spéculation pour pouvoir y accéder, quoi.
C'est ça.
Quasiment pas, parce que les mecs, ils achètent, c'est des collectionneurs, ils revendent pas, en fait.
Ah, et donc, en fait, tu peux pas y aller. Ouais, c'est même pas une histoire de fric.
Il y a eu un Kickstarter il y a 6 ans, tu sais, et tu devais lâcher ton rein pour l'acheter.
On parle de quoi? 500 balles?
Le all-in?
Ouais.
Le all-in était à 3000, je crois.
3000 boules?
Je crois que c'était un truc comme ça.
Putain.
Il faudrait vérifier, mais c'était un truc de ouf.
Il n'a pas pris.
Moi, j'ai pas pris cette boîte.
Hélène, il n'a pas pris cette boîte.
Non, j'ai pas pris cette boîte. Hélène, si tu m'entends, j'ai pas pris cette boîte. Et les gars, en fait, je pense que ça va être 4 ou 5 ans, je crois, de mémoire, et c'est toujours pas fini. En fait, le mec, il est encore en train de les faire. Quoi. Ouais.
D'accord, ok.
Mais oui, il est fait.
Il fournit des vagues.
Ouais, il fournit au fur et à mesure. J'ai reçu une version 1.6 il y a pas longtemps, tu vois. C'est marrant parce que du coup, tu sais plus que t'as acheté ça.
Et toi, dis-moi alors, pour toi, quel sera le jeu le plus inabordable financièrement?
En figurine ou en jeu?
En jeu avec
financièrement, figurine. Tu parles que
financièrement. Je parle financièrement, celui qui est le plus difficilement accessible, quoi.
Pour moi, ça reste Horus Heresy.
Ça reste Horus Heresy.
Ouais. Sans conteste, même si ça reste mainstream et c'est pas comparable à du Kickstarter de jeux de plateau comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des Kickstarter de jeux de plateau avec du kilo plastique qui sont un peu chers, mais un jeu mainstream, pour moi, ça reste Horus Heresy, parce que dès que tu peux toujours jouer, comme l'ont dit les copains qui étaient venus au Hammer Time, en mode restreint, là.
Ouais, en format escarmouche.
En format escarmouche. Alors, tu vas acheter les boîtes de MK3 qui sont éditées par Games, mais ça reste hyper cher. La boîte de MK3, elle est presque à 40€ la boîte, il me semble. Pour 10 figurines, donc
après il faut voir la quantité, c'est toujours le ratio quantité.
Et derrière, tu sais que tu vas devoir acheter, si tu passes par les canaux traditionnels, chez Forge World, et donc tout de suite.
Dès qu'il y a du véhicule, c'est sûr. Voilà.
Dès que tu pars là-dedans, bon bah voilà, et l'occasion, ça reste cher, les prix ne baissent pas en occasion. Les boîtes de Burning of Prospero, dès qu'elles sont mises en général, elles sont vendues à 150€. Les Burning of Prospero, il y en a encore une qui est partie à 150€, mais elles partent en un éclair.
Ouais.
Donc sur les hors canaux de mecs un peu pro, genre sur le Bon Coin par exemple, elles partent à 200, voire plus, quoi. Parce que c'est tellement rare que dès qu'il y a une boîte Burning of Prospero ou l'autre qui était... il y a eu deux boîtes.
Betrayal, je crois.
Betrayal 4, voilà. Ouais. La Betrayal 4, pourtant, pour moi, c'est super fun, j'aimerais bien, mais bon.
Ok.
Bon, alors, je me permets, j'ai dit de la merde, c'était pas 3000, c'était 1666 dollars américains.
Ouais. Ouais, 1500€.
1500€ pour avoir tout.
Combien de figurines?
Je sais pas, au kilo ou...
Toute la vie du King of Death.
Franchement, ouais, c'est chaud.
À mon avis, il a peut-être juste fourni les...
Attends, je suis même pas sûr qu'il est tout.
Les intentions, le gars, tu sais.
Si, en fait, t'as la boîte de base, Gambler's Test, toutes les extensions, il y a 12 extensions, toutes les nouvelles du Kickstarter, enfin, tout, et toutes les figurines individuelles en plus.
Ouais.
Bon. Parce qu'en plus, tu vois, ce gars-là, tous les ans, il sort à Halloween une ou deux figurines spéciales qui sont parties en... Je sais pas, jamais réussi à choper une.
Par contre, moi, j'ai pas dit de conneries, c'est bien 40€ la boîte de 10 Space Marine MK3.
Ah, c'est pas mal, quand même.
Prix Games.
Ouais, prix
sachant
Games.
Que
ouais, derrière, tu peux
en général, tout le monde le touche à moins 20%.
Et toi, Kiki, t'as une idée?
Moi, j'ai pas d'idée, mais je pense que c'est plutôt un vieux truc qui est pas réédité. Qui a peu de tirage. Enfin, tout de suite, je pense à genre Epic ou un truc comme ça. Ou si tu veux vraiment jouer avec les vraies figues officielles Epic qui sont plus éditées depuis 15 ou 20 ans. Et les mecs qui en ont veulent pas les lâcher, donc à mon avis, il faut un ticket d'entrée assez élevé si tu veux jouer avec des figues Epic Games Workshop. Et pas du proxy imprimé 3D.
Il y a une sorte de courbe, je dirais. Le jeu s'éteint, les prix chutent.
Et ça re, et y a un revival.
Mais après, t'as une nostalgie. Puis là, ça
c'est
mais,
ça.
Tu vois, il y a eu ça avec AT43. Aujourd'hui, AT43, ça coûte une blinde. Quoi.
Et toi, Greg, t'as une idée?
Bah, sur le coup, quand on m'a posé la question, j'ai répondu avec un temps de décalage. J'étais à chercher le Kickstarter. J'avais pas de titre en tête, mais j'avais dit il y a des Kickstarter qui aujourd'hui sont extrêmement chers pour être entre guillemets poussés. C'est-à-dire que t'as un moteur et puis t'as un. En fait, ça me fait l'effet un peu de. C'est pas très cher, mais en fait, si tu veux tout, tu te retrouves avec un peu comme quand tu montes dans un avion en mode ah, vous avez le bagage machin, ouais, le supplément repas, vous pesez 100 kilos, enfin bon, voilà, bref. Donc tu te retrouves rapidement avec des surplus de coûts qui font que si tu veux vraiment aller au bout de la presta ludique, t'arrives à un prix, tu te dis non, attendez, c'était pas du tout pour ça que j'avais signé. Mais j'avais pas le nom, en fait, tu vois, j'étais pas comme toi. Par contre, j'arrivais bien à situer qu'à. Ça m'a permis de me questionner sur l'évolution plomb-plastique, où je me suis rendu compte qu'en fait, à une époque, j'achetais quand même des figurines plomb par blister de 3 pour monter des unités de 20.
Ouais, carrément, ouais.
Donc, autant.
Même si c'était en francs.
Même si c'était en francs,
on avait 75 francs.
C'était.
75 francs.
Franchement, je n'y arrivais pas. J'avais beau.
C'était super dur.
Je n'y arrivais pas. C'était
pas
vraiment.
De garde
moi, je jouais
quoi.
À Bade. Moi, j'avais Garde Impériale et Battle, c'était.
C'était pas jouable, en fait. C'était pas jouable.
Garde Impériale.
Moi, Garde Impériale.
Deux ou trois unités, je crois. Mais tout
les
en
Cadiens.
Métal. Les Cadiens.
Ouais, les Cadiens.
Les Cadiens métal.
Et les Vostroyens.
C'était chouette. Mais...
Et pour pousser encore plus loin le raisonnement, j'ai pensé au contexte historique, en fait. L'histo, à une époque, c'était de la figurine en plomb également. Et ça, c'était absolument inabordable. C'est-à-dire que quand j'ai voulu faire du napoléonien, il était hors de question que je puisse acheter.
Bon, en plus, de mémoire, ils faisaient aussi beaucoup, ils vendaient les moules.
Ouais,
carrément,
c'est ça.
Tu te démerdais.
Ouais, tu te démerdais pour
j'étais très laid, en fait. Enfin, moi, ça rendait rien. Non, donc, du coup, tu consacrais du temps de peinture sur des trucs tellement laid que tu n'avais pas envie. Enfin, c'était rédhibitoire. Et l'arrivée du plastique, honnêtement, nous a fait énormément de bien, autant pour le portefeuille que sur la qualité, quoi, sur le look. Donc j'avais répondu l'histo à une époque. Quoi, voilà.
Ouais, c'est possible.
À une époque, l'histo était vraiment inabordable. C'était vraiment un truc de jeu fortuné. Quoi.
Ça marche. Bon.
Voilà.
Ok, merci Greg.
La Rebiotico.
On va donc passer à notre ami, l'inspecteur Kirouche.
Alors, c'est parti pour une nouvelle enquête de l'inspecteur Kirou. Hein. Alors, la peur. Oui, la peur, c'est effrayant, en effet. On trouve moult jeux d'horreur, de jeux dans un univers effroyable, de figurines atroces. Mais qu'en est-il vraiment de la peur dans le hobby? J'entends du côté psychologique, du côté du joueur. Aujourd'hui, j'ai tenté de répondre à la question, quelles sont les peurs du hobbyiste? Après plusieurs semaines d'investigation, de recherche, d'interviews, de raclette, il ressort que de nombreuses phobies sont présentes dans le hobby. Tout d'abord, du côté des peintres. On trouve très fréquemment des aficionados du 28 mm tétanisés devant une figurine, souffrant du syndrome de la figue blanche. Ne sachant pas par où commencer leur œuvre, quel schéma lui a posé, restant béat devant leur figurine sous-couchée, en manque total d'inspiration. On a ainsi retrouvé des équipes de Blood Bowl traînant sur l'établi, toujours dans l'attente d'un choix de maillot après plusieurs années à prendre la poussière, oubliés, délaissés par leur peintre, une couche de poussière grise leur servant d'unique couleur. Ou encore ce héros Age of Sigmar de Games Workshop, si beau, si fort, encore d'un blanc immaculé, son propriétaire n'ayant pas eu le courage, la force, de se lancer dans son coloriage, le revendant après 5 années à dormir dans une mallette. Un certain G nous raconte. Clairement, je ne suis pas un très bon peintre. Quand j'achète un bonhomme, je cherche de l'inspiration sur Instagram. Et en fait, le plus souvent, ça me bloque encore plus de voir toutes les réalisations qui y sont. Du coup, j'abandonne, je revends, et j'achète une nouvelle armée. Et ça recommence. En creusant un peu plus, mais pas trop non plus, j'ai constaté une autre peur. Elle était assez répandue dans notre milieu. On pourrait la nommer le plus grand sentiment d'insécurité du hobbyiste. La peur de manquer. La peur du vide. L'effroi de ne plus avoir de figurines neuves. Qui, Oui. Qui peut dire qu'il n'a jamais été confronté à ce sentiment ? Personne. Nous sommes tous passés à un moment dans notre vie de hobbyiste par cette sensation irrésistible de devoir acheter pour ne pas manquer. Certains parviennent à mieux la dompter que d'autres, reculent l'échéance inéluctable. Mais tous, nous craquons, par peur, par crainte, avant que les tremblements ne soient trop présents. Une certaine C, qu'on peut qualifier de survivaliste ludique, témoigne. Vous savez, j'ai toujours peur de manquer. Chez moi, j'ai des piles de jeux, de figurines, neuves, montées ou en carton. J'ai des cloisons faites uniquement de matériel de jeu au cas où. Mon T3 est en fait un T9 maintenant. J'en ai jusqu'au plafond, même dans mes toilettes, au-dessus de ma chaudière, partout. Je pense que je pourrais survivre des années si un jour le marché du jeu venait à s'effondrer. Mais j'achète encore, on sait jamais. Kakoraphiophobie. Mais qu'est-ce donc que ce terme barbare ? Le nom d'une unité Toa pour Infinity ? La traduction littérale d'une exoplanète du jeu X-Wing ? Non, c'est simplement le nom de la peur dont souffrent la plupart des gros billes de notre hobby. La peur de l'échec. La peur de perdre. Si vous faites des tournois pour vous amuser de temps en temps, vous pourrez dorénavant frimer en gratifiant gentiment le vainqueur de Kakoraphiophobe. Pas sûr qu'il le prenne bien, mais au moins, vous aurez la classe. La peur de perdre, donc. Mal qui ronce certains jeux bourrés d'optimisateurs, de pinailleurs, de calculateurs, qui n'osent se l'avouer. Ils ont tout simplement peur. D nous dit... Je me rends compte que c'est au-dessus de mes forces de résister. J'ai besoin de gagner, un besoin vital. Perdre serait le plus grand échec de ma vie, plus grand que mon divorce ou mon licenciement. J'ai la phobie de la défaite. Je commence à essayer de me soigner d'ailleurs. J'ai rejoint récemment les winners anonymes. Ça fait du bien d'en parler. L'autre versant de cette peur est une peur moins répandue, mais qu'on en rencontre tout de même. La peur de gagner. Cette peur est plus pernicieuse, car elle amène à des formes graves d'auto-sabotage, notamment. Souvent inconsciente, cette frayeur se développe chez les individus ayant également une peur de la pression, de la reconnaissance et du talent. Ne voulant pas reconnaître leurs qualités, ces joueurs ont une peur bleue de la réussite. Ils mettent alors toutes les chances de leur côté pour ne pas atteindre un quelconque objectif. Choix de l'armée la moins puissante, construction de listes hasardeuses, jetées de dés rocambolesques sont les maîtres mots des winophobes. N nous explique. Vous savez, quand vous paraissez mauvais, au moins on n'entend rien de vous. Et la vie est tout de suite beaucoup plus simple à vivre. Nos stress, nos paniques. Tout est sous un contrôle, et au moins, on ne vous accompagne pas un manque de réussite ou le fait d'échouer. Je vous assure que la vie est beaucoup plus peace. Alors c'est vrai, parfois il faut un peu forcer le destin pour ne pas gagner. C'est pas si évident, mais c'est un coup à prendre. Enfin, une peur qui est parfois liée à la précédente. L'autophobie. Aussi appelée peur de la solitude ou la peur de ne plus avoir de partenaire ludique. Si tous vos copains ont décidé de vous abandonner ou que vous avez prévu de déménager dans le fin fond de la Lozère, vous êtes peut-être sujet à l'autophobie. Ne vous en faites pas, sauf si vous êtes également cacoraphiophobe, cette phobie se compense assez facilement. Il suffit de trouver le juste équilibre dans votre jeu, de vous rapprocher de la vie associative locale ou encore de créer votre propre cercle de jeu dans votre donjon, votre grenier. Le jeu est fait pour se partager, et il est compréhensif de souffrir de cette peur. Néanmoins, il y a très peu de cas prouvés de solitude aggravée dans le hobby. Cependant, J nous partage sa crainte. J'ai tellement peur de me retrouver seul et de devoir jouer dans mon salon à des jeux solo, que je mets toutes les chances de mon côté. Je crée des tables de décor de malade, j'ai un espace de 160 mètres carrés dédié au hobby avec du matos pour environ 40 jeux, sans compter les plateaux. Je suis sur tous les groupes Facebook de figurines, j'ai 8572 abonnements sur Instagram. Bref, je fais tout pour éviter la solitude. Bon, par contre, j'habite avec mon chien sur l'île de Kemenes dans le Finistère, et il n'y a quand même pas grand monde qui passe par ici. Alors, ce soir, nous avons fait le tour que des plus grandes peurs des joueurs. Mais ce n'est qu'un échantillon de toutes les peurs, même les plus tordues, auxquelles le ou la hobbyiste peut être confronté. Alors, vous, quelle est votre plus grande peur dans le hobby ? Jouer contre Vulcan le vendredi soir ? Tremper votre pinceau préféré dans la glu au lieu de la peinture ? Faire tomber votre figurine fraîchement terminée ? Voir les prix de Games Workshop diminuer et votre spéculation s'écrouler ?
Merci, bravo. Très très beau.
Bon, on en profite hein, pour dire un petit bonjour à Xavier qui nous a rejoint.
Salut voilà. L'ancien.
Coucou.
Salut Yann.
Ah, ok, merci Kirou. Alors, en termes de peur, moi je l'ai partagé sur Discord tout à l'heure. En fait, vraiment, hein, elle me stresse à chaque fois. J'ai eu une fois le coup. J'ai fait une figurine, c'était un Manhunter de War Machine. J'étais vraiment super content de la peinture. Et au moment de la vernir, j'ai secoué ma bombe. J'étais vraiment content de ma figurine. J'ai secoué ma bombe. J'ai fait un gros pshh direct dessus. C'était de la bombe de sous-couche blanche. J'en ai pleuré. Je peux te dire que maintenant, je vérifie en deux ou trois fois ouais. Cette putain de bombe pour être sûr qu'elle est bien transparente. Voilà.
Ouais, c'est.
Ouais.
Je sais pas, moi, je poids de.
T'es pas peut-être sans peur. Dim sans peur.
J'en ai rien à faire, en fait, de le perdre, je m'en tape.
Ouais, non,
même si ça m'énerve un peu, mais. Ça m'énerve un peu quand je perds le coup.
Non, j'ai peur de gagner, moi.
J'ai peur de ça. Plus avoir de chatte.
Ah ouais, ça, c'est clair que ça te ferait mal.
Tu vois, quand je lance les dés...
Je sais pas, ça te fait bizarre. Quand ça t'arrive, c'est
en fait, il faut savoir qu'à la maison, c'est toute la famille qui est comme ça. C'est tout, même mes deux fils, quand ils lancent les dés, c'est pareil.
Ils intègrent cette variable.
Donc ils ont intégré qu'ils ont de la chatte, en fait. Ils ont intégré qu'ils ont une méga chance. J'ai mon fils qui attend ça. Moi, je suis chanceux, hein. Puis quand il rate, ça arrive quoi, je veux dire. Ouais,
donc là, ça se rejoint quand même un peu de la peur d'échouer.
Ouais.
Un petit peu, ouais.
Comme t'es pas habitué.
Cacoriophobe. Ouais.
Tu peux redire le mot
La cacoraphiophobie.
Encore une fois.
La cacoraphiophobie.
Bien joué.
Cacoraphiote.
Et toi, Greg, t'as peur de quoi?
Alors, moi, j'ai eu.
Marcher sur sa figurine.
Alors, ça, j'ai fait.
Ouais, je sais.
En fait, le moment où j'ai vraiment eu une terreur liée au hobby, c'est le jour où on m'a volé mon armée Trollblood.
Ah, ouais. Je me souviens de ça.
On m'a volé mon armée Trollblood, donc j'ai deux énormes valises remplies de toutes mes références Trollblood. C'est quasiment toutes les
full
références.
Full
pain.
Full pain.
Donc, c'est quasiment toutes les références Trollblood qui peuvent exister pour le jeu Horde, War Machine. Et donc, je chargeais mon véhicule vers 2h du matin, quoi, devant l'assaut. Et j'ai déposé les figurines, puis après je devais démonter mes décors. Et j'ai pas pris la peine de verrouiller automatiquement ma bagnole, parce que j'avais un problème de faux contact, bref, une connerie. J'ai juste claqué les portes. Et puis je me suis fait pister, et donc il y a un mec qui a ouvert ma bagnole et qui a pris les deux valises. Deux énormes valises qui sont des valises de transport d'outils en fait.
C'est la marque Milwaukee.
Makita.
Milwaukee. Donc c'est des énormes valises, hein, c'est des trucs 60 par 40 par 40. C'est une espèce de gros bundle. Et en fait, le type, il a été derrière l'église, qui était non loin de l'assaut où on était, et puis il a ouvert les valises, et quand il a vu que c'était des jouets, il a tout balancé dans les forêts. Il a tout retourné les valises, pour voir s'il n'y avait rien de valeur dedans.
Un peu vénère.
Et il a tout balancé dans les forêts. Et puis, voilà. Donc moi, je suis arrivé, ma bagnole était ouverte, le coffre était ouvert, j'ai dit, bah merde, j'avais pas laissé le coffre ouvert. Enfin, c'est un break, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Puis là, hop, j'arrive avec mes décors, puis je vois pas les trucs, les valises rouges. J'ai eu les bras qui sont décrochés. J'ai eu un moment de tétanie. J'ai été tétanisé un bon 10 secondes. Quoi, voilà. Et heureux, il y avait du monde de l'assaut qui était encore présent pour un peu me radio-piloter. Parce que sinon, franchement, j'aurais eu un touk, j'aurais eu une descente de. Enfin voilà, quoi. Il y aurait eu des connexions qui ne se seraient pas faites. Quoi. J'aurais eu un moment d'apathie. Enfin voilà, quoi. J'aurais été complètement débranché. Donc ça, c'était pas ma plus grande crainte, mais je l'ai traversé et c'était pas cool. Après, je vous ai déjà annoncé le truc, hein, je les ai récupérés au prix d'un peu de recollage et puis de nettoyage. Mais ouais, c'était un gros stress. J'ai vraiment eu un énorme stress.
Donc, en termes de conseils, on évite les valises.
Les valises dans les voitures ouvertes.
Les voitures ouvertes.
On évite les valises dans les voitures sans surveillance.
C'est quoi ta peur?
Ah, ben j'ai dit, hein, moi, c'est la bombe de peinture. Hein.
Ah oui, c'est vrai.
Ah, la bombe de peinture, mais vraiment.
Ah, je pensais que c'était joué contre.
Donc, du coup, ouais, voilà, quand je retourne à mon.
Non, c'est bon,
quand
je suis passé.
Ma bagnole,
jouer contre Jules maintenant. Je sais que ça va faire mal.
Quand je charge ma bagnole, j'ai toujours ça en tête, en fait.
C'est vrai
ouais, j'ai
moi, ça m'est arrivé avec mon matos d'airsoft. Xavier hein. Mais je me suis fait vraiment.
T'as piquer. Quoi comme peur, toi? Viens ici, parce que tu ne vas pas t'entendre. Allez, mon petit Xavier.
Attends.
Pas
long, du coup. La plus grande peur, c'est parce que j'en fais beaucoup moins, hein, de fait. Hein. C'est que je suis assez fan de Wargame en général. Et à l'inverse de Dim, des parties qui auraient pu être extraordinaires, anéanties totalement, par des GD clients, quoi. Mais à un point que je veux dire, c'est où tu défies les statistiques. Et ça m'a à un point tel que même au club, en fait, j'ai toujours du mal, alors que j'en ai envie, à me remettre sur des jeux de filles ou des choses comme ça, parce que j'ai une hantise des dés.
Ouais.
Je ne veux plus de même le jeu de rôle finit par me muser. Je fais tout ce que je peux pour ne pas lancer de dés, quoi.
Mais toi, Malifaux,
c'est vraiment, c'est catastrophique, quoi. Je veux dire, pourtant, j'adore le jeu de rôle,
la peur de lancer les dés.
Je fais tout pour ne pas lancer de dés, jusqu'à utiliser des applications, tu vois. Mais non, j'en suis malade, vraiment malade, et ça se. Alors à croire qu'il doit y avoir une sorte de, tu sais, de dieu mesquin, un petit peu comme dans Terry Pratchett, tu sais, qui est né de ma phobie et qui du coup se fout de la gueule en permanence. Mais ça se vérifie systématiquement, quoi. Je peux être capable de faire 2x20 d'affilée, tu vois, le truc absolument formidable pour rien. Par contre, dès que j'en ai en aura besoin, ce sera fumble.
Tu ramasses
systématique, quoi.
Mais
à un point vraiment dément, quoi. Je suis capable de faire 3-1 de suite sur un des 20, quoi. Non, c'est n'importe quoi.
Ouais.
Mais voilà. Et alors, avec les D6, c'est encore pire. J'étais capable de mourir sur Barbarossa avec mes chars allemands à fond, blindés à fond, noyés dans des rivières devant des infanteries russes, désorganisées, complètement paniquées, tu vois, le premier jour de Barbarossa. Enfin, faut voir le truc.
Ah, juste...
Parce que le mec, il a fait un 6 avec un seul dé, et moi, j'ai roulé 4D6 avec des bonus plus l'aviation qui est derrière. Enfin, un truc impossible, et je vais pas faire un seul dégât, quoi. Et voilà, et tu perds la bataille d'un coup, parce que là, à ce moment-là, c'est juste saisissant, quoi. T'as un trou dans ta. Enfin, voilà, c'est tout.
On a senti le trauma.
La peur des dés.
Merci beaucoup, inspecteur Kirou.
Pas de soucis.
On va donc continuer avec Dim et sa chronique.
La dimension. De la peur. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter, après quelques tests, le jeu Forbidden Psalm, qui a débuté un peu à la forge. Donc, en intro, un peu comme l'inspecteur Kirou, j'allais dire, les jeux qui parlent de peur, c'est un peu monnaie courante dans notre hobby, hein, il y en a quand même quelques-uns. On passe tous les jeux de zombies, etc. Enfin, voilà, il y a quand même un paquet. Walking Dead, Dead of Winter, tous ces trucs-là. AOS n'est pas en reste, hein, avec les vampires, etc. Mais donc, je vais m'attarder plutôt sur Forbidden Psalm aujourd'hui. Donc, premièrement, c'est quoi Forbidden Psalm ? C'est un jeu, donc, du coup, agnostique, c'est-à-dire qui ne dépend pas de figurines, voilà, il se suffit à lui-même.
Agnostique, c'est ça ?
Voilà, agnostique.
C'est bon.
Et il est écrit par Kevin Raman, inspiré de l'univers de jeux de rôle.
Saskavan.
Ouais, Kevin Raman, ouais. Ouais, c'est pas mal. Inspiré de l'univers de jeux de rôle Mork and Borg, qui se déroule dans un monde fantasy post-apocalyptique. Alors, c'est en fait. Il y a eu une apocalypse et ils sont retournés un peu en mode Moyen-Âge, quoi. Le jeu, c'est en fait un livre de règles en anglais, avec une esthétique vraiment assez particulière.
Très punk.
Très... Il y a de la dark fantasy, donc il y a une ambiance un peu dark soul, mais qui s'en détout de bras et qui rigole, quoi. Donc je suis partagé. C'est moi qui suis très fan de Dark Souls. On ne retrouve pas l'esthétique léchée des jeux japonais, mais on est plutôt sur du Benny Hill, des fois. Donc c'est un truc un peu bizarre. Hein, ça, voilà. Donc dans ce jeu, on mène une campagne avec une équipe de 5 membres, dont un sorcier. Donc c'est pas très différent jusque-là d'autres jeux d'aventure, à la Frostgrave par exemple. Par contre, là où le jeu se démarque, c'est dans la création des personnages. Donc quand on crée son personnage, chaque membre de la bande reçoit un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, par exemple, ça peut être quand tu rates ton jet de dé, allergique au métal, ne peut pas porter d'armure. Voilà. Ou il lui manque un pied.
Pas de piercing non plus, du coup.
Et ouais, il lui manque un pied, bon, il avance moins vite, il est frénétique, il va taper tout le monde, etc., etc. Donc vous jetez tous ces trucs-là. Par contre, c'est extrêmement facile. Il n'y a que 2 profils, 2 stats. Vous choisissez un des 2 profils, et après, en fonction des jets de dés d'avantages et désavantages, ça se modifie. Le mage, lui, par contre, il est construit de la même manière, mais il a le droit en plus à deux sorts. Un sort dit clean et un sort dit unclean. Donc je vous laisse imaginer les sorts unclean, c'est des trucs un peu qui rendent fou, etc. Voilà, c'est un peu. Il y a le concept de folie qui est très présent dans le jeu. Donc après, on a une réserve de pièces d'or. On achète du matos, comme dans la plupart des jeux d'aventure, jeux de rôle, etc. Et donc on constitue comme ça sa bande. Hein. Bon, faut dire c'est quand même du Pékin de base avec de la pique, des pioches, des trucs de merde. Hein. C'est, voilà, on n'est pas sur du paladin. Voilà, ça coûte très cher de mettre une armure lourde. Et en plus, c'est pas sûr que ça protège très bien.
Il faut pas être allergique au métal.
Et il faut pas être allergique au métal. Bah, c'est, tu vois, c'est tu. Alors, pourquoi ça a été fait comme ça, c'est surtout pour faire du kit bash avec les figurines.
Ouais.
C'est ça qui est intéressant. Moi,
c'est un jeu de figuriniste en fait.
C'est un jeu de figuriniste. Moi, pour le coup, j'ai pris le parti inverse. J'ai acheté des figurines sur Etsy en impression 3D et je me suis dit, je ferai la création de perso après. C'était un peu compliqué parce que du coup, j'ai trouvé des trucs aléatoirement qui n'allaient pas très bien avec les figurines. Mais bon, j'ai réussi à m'en sortir au final. Donc, le système de jeu. C'est avec du D20. Voilà. Et c'est assez simple aussi, là. Il faut faire 12. Voilà. Il faut tout le temps faire 12. Et après, on applique des bonus et des malus.
Plus de 12 ou moins de 12?
Il faut toujours faire plus de 12.
Ok.
Voilà. Donc 20, c'est un critique.
D'accord, ok.
Je fais beaucoup de 20.
Et c'est l'inverse de Finity.
Ouais.
C'est
en ce qui, alors, en ce qui concerne les sorts, c'est là que ça devient aussi intéressant. Il y a un système qui est assez drôle qui s'appelle de tragédie. Donc rien à voir avec le groupe de R&B français.
Est-ce que tu m'entends?
Je savais qu'il y en a un qui craque.
Alors, en fait, quand on lance un sort, quand on fait un fumble, quand on fait un 1 au dé, on relance un dé et on ajoute le score de tragédie. Donc à chaque fois qu'on rate on rate le sort, on cumule son score de tragédie. Et donc, s'il nous arrive une tragédie, ça peut aller jusqu'à la mort du sorcier.
Sympa.
Alors, et c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'il y a une phrase assez marrante qui dit « Votre sorcier se liquifie sur place, il devient un tas de chair dégueulasse. au regard du jeu, il est considéré comme mort, mais en fait, comme il n'est pas vraiment mort, il prend le slot dans votre bande, donc vous ne pouvez pas le remplacer. Puisqu'il est toujours vivant, techniquement. » Voilà, donc voilà, c'est pas un jeu qui est fait pour optimiser ou quoi que ce soit, c'est un jeu pour raconter des trucs et franchement pour bien rigoler, ça reste quand même assez drôle. Le mage peut devenir aveugle par exemple, aussi. Voilà, donc cette partie du jeu là, c'est assez rigolo, mais ça reste quand même un système de jeu qui est assez banal dans l'idée, c'est pas, on révolutionne rien. L'intérêt du jeu, ça réside plutôt du coup dans l'esthétique et le bestiaire qui est proposé. On a un effrayant corpse collector qui fait la couve. Si vous allez voir la couve du jeu Forbidden Psalm, c'est un énorme truc qui collecte des cadavres dans un panier derrière.
Comme les Monty Python.
Je sais pas si dans Monty Python, je connais pas, je sais pas.
Les gars, tu dead.
Ah ouais, ça doit être une référence à ça. Mais ça fait penser aussi à un personnage de Dark Souls où il y a un personnage comme ça qui a un énorme hachoir.
Il y a un côté monstrueux qui va prendre.
Il y a une sirène un peu cinglée, mais on a aussi des gobelins voleurs de chaussettes. Avec une petite référence à Harry Potter, voilà. Donc voilà. On a du vampire, enfin voilà, on a un bestiaire qui est assez classique aussi, mais qui le Wendigo, les trucs comme ça, qui va pousser les joueurs à aller faire du kit bash, c'est là que vraiment est l'intérêt du jeu. C'est de créer du décor un peu dark fantasy à la Jérôme Bosch, hein. Moi c'était l'idée que j'en avais quand j'ai commencé à jouer, et aller chercher des figurines qu'on ne voit pas nulle part. Moi j'ai pris le parti de l'impression 3D, et la commande sur Etsy, c'est plutôt bien passé, j'étais assez content. Mais on peut très bien partir sur des boîtes à rabios, faire un défi entre copains et dire allez, on met tous nos rabios. On met tous nos rabios ensemble, on tire les personnages et avec le rabio, c'est un peu ce que fait deux des membres de la forge, Eric et Pierre, ils ont mis leur, leur truc en commun, puis ils ont jeté leur perso, puis ils ont créé leur perso. C'est une démarche qui est géniale. C'est, en termes de jeu, c'est assez rigolo.
En termes de modélisme aussi.
En termes de modélisme, c'est vraiment drôle. Donc voilà. Donc, en gros, pour conclure, Forbidden, c'est un jeu alternatif d'aventure qui ouvre de belles possibilités de conversion, donc comme je l'ai dit, de peinture, de décor, mais avec un système de règles pas équilibré du tout, assez punitif, voire assez délirant. C'est... Moi, quand j'ai joué, Pierre m'a dit « Attention, tu vas voir, les bastons, c'est un peu des bastons au ralenti, les mecs, ils se tapent pas. » Ça n'a pas été mon cas.
Et toi, t'as claqué des 20, des 20, des 20. Donc
disons, ils sont tous morts. Disons qu'ils ont galéré, je les ai laissés, puis je suis arrivé, j'ai tué tout le monde. Bon, voilà. Et après, quand j'ai tiré les... Alors, inversement, donc là, vous dites ah, « c'est balèze. Quand tu fais du gros score, c'est balèze. » Derrière, j'ai ouvert un coffre au trésor, donc tu lances les dés aussi, hein, tout est en aléatoire. C'est un peu oldies comme principe. Et quand tu fais des 20, tu retires un jet de dés sur le trésor. C'est infini, quoi.
C'est un coffre à la Mary Poppins, quoi.
C'est ça, j'ai fait 4-20 sur le jet de trésor.
D'affilée. Vous entendez tous, hein, 4-20 sur un dés d'affilée. 20 d'affilée, voilà. Pas mal.
Je crois qu'entre deux, j'ai quand même refait un score qui... Mais oui, 4-20 d'affilée, ouais. Mais au final, j'ai gagné 8 pièces d'or.
C'est en fait, de la merde.
En fait, j'avais vraiment cette impression du gars qui ouvre le trésor, qui
blinde des chaussettes.
J'ai trouvé une chaussette, un pieu en bois. Ouais, ça, bon, voilà.
C'est post-apocalyptique. Hein.
C'est post-apo. Ouais, voilà. Donc, ça réjouira plutôt les connaisseurs qui veulent se faire plaisir en termes d'esthétique sans se prendre la tête niveau règles. Se faire un nœud au cerveau en disant au niveau des mouvements, etc. On peut jouer en solo. L'IA joue toute seule. Elle aussi doit atteindre 12, mais il n'y a pas de modificateur pour le méchant. Le jeu, lui, a une communauté assez active. Ils ont des Discords dédiés. On peut poser des questions directement au concepteur du jeu. Et le livre de règles, il est dispo en PDF ou en physique pour environ une trentaine d'euros, mais à commander aux États-Unis.
Ok. Tu peux rappeler le nom et le créateur, du coup ?
Alors, c'est un Skaven qui l'a écrit, comme tu dis. Kevin Raman, donc c'est celui qui a réalisé le jeu. Et le jeu, c'est donc Forbidden Psalm, à savoir que la campagne, le but du jeu, c'est de retrouver les Forbidden Psalm. Moi, j'en ai trouvé un sur ma première partie.
Sur le premier coffre.
Sur le premier. Non, alors ça, en fait, c'est à la fin de la partie, tu jettes pour savoir si tu as remporté des trucs. Bon, j'ai trouvé un morceau du Forbidden Psalm. Hein, voilà. J'avais fait encore un 20. Et j'ai utilisé des dés différents. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, hein, pour rebondir sur l'inspecteur qui roule, la peur de rater au jet de dés, pour moi c'est un truc assez compliqué. Mais voilà, donc Forbidden Psalm, un très bon jeu, sympa. Si vous connaissez pas, franchement, il y a moyen de trouver le PDF sans trop se prendre la tête, de jouer entre copains, de se faire un bon petit délire et de faire des petites vidéos narratives. C'est très narratif, surtout, très rigolo.
Moi, ce que je retiens du jeu, enfin, pour l'avoir eu en main, enfin, avoir le livre en main présenté par Pierre, qui était l'ardent défenseur de la règle, c'était surtout le côté l'alchimie entre loufoquerie et horreur.
Tout à fait, c'est ouais, exactement
c'est,
ça.
C'est vraiment ça.
J'ai bien aimé la mise en page un peu marquée.
C'est Evil Dead en fait, hein. Il y a un petit côté Evil Dead.
Après, sur le côté graphique, ouais, on est sur quelque chose de. On est un peu sur le sketchbook, quoi.
Ouais. Et c'est un format assez noir aussi, c'est un petit format.
C'est un format
A5.
A2.
C'est
un format
entre
A5.
Le comic book et le manga.
Ouais, et ça. Moi, du coup, je l'ai pris plus du côté Dark Souls du jeu.
Ouais.
Donc plutôt un peu serious. J'ai fait des figurines avec des parasites d'araignées sur la tête, avec une reine, des parasites qui les commandent par la voix. Enfin voilà, je m'étais imaginé tout le concept de ma bande. Et après, quand j'ai joué, j'ai
compris que... Et la reine est
morte. Non,
elle s'est liquéfiée.
Du tout, mais le concept de la bande, en fait, le concept du jeu, j'ai compris après que c'était... Si tu mets des trucs un peu voilà, caca.
Tu les as mis sur ton Instagram peut-être ces figurines-là, non ?
Pas encore, non. Ouais. Malheureusement.
Sinon, je vais inviter tout le monde à aller voir ton Instagram.
Alors, on peut aller voir mon Instagram, mais en ce moment, c'est plutôt du Malifaux.
Ok, Dak, merci Dim.
De rien.
Alors on va finir maintenant l'émission avec les news de la Forge, hein, donc Greg qui va gérer ce point-là.
Allez, ouais, c'est parti.
Il te reste environ 5 minutes. 5
c'est très bien. Bon, voilà, l'actualité de la Forge, c'est quoi ? On termine l'année avec un investissement massif financier, parce qu'on a acheté pas mal de décors. On a fait une grosse commande chez GameMat, donc on a reçu 3 tables, 3 sets complets. Donc un set Rocky Mountain qui va avec la possibilité d'y intégrer une base de science-fiction. donc plutôt des éléments modernes. On a également reçu le full set chimique, donc c'est différents containers avec des tuyauteries, etc. Un temple, plutôt médiéval fantastique, un gros portail warp, et on a eu un don aussi de Tanguy qui nous a donné une tour Warhammer, hein, donc qui vient enrichir le set des décors médiévaux qu'il avait déjà fourni, puisqu'il nous avait déjà donné 4 portails pour AOS. Donc on commence à être bien garni en décor. Ça, on s'arrêtera pas là, parce que d'ici 2022, enfin premier trimestre 2022, j'aimerais qu'on soit équipé avec des décors de ruines. Donc,
les ruines gothiques, c'est ça.
Alors le problème, c'est que les ruines gothiques sont en rupture, et j'ai eu un message de GameMat, ils annoncent pas de réassort avant le mois de mai, compte tenu des problématiques de livraison en Chine. Donc je pense qu'on va se rabattre sur d'autres marques. J'ai commencé à regarder un peu ce qui existait. Peut-être à un prix légèrement supérieur, mais en tout cas avec une qualité identique. Donc c'est des décors en résine qui seront dans l'armoire et à disposition de tous. Donc ça, c'était les investissements de cette année. Ben, c'est massivement du décor. Voilà. Alors ensuite, au niveau de l'actualité temps de jeu, on va clôturer l'année 2021 avec un Forge 920 qui va être en décembre, le 12 décembre. J'attends la confirmation, donc c'est dans 10 jours.
Peut-être rappeler ce que c'est Forge 920.
C'est la semaine prochaine, en fait.
Ouais, c'est la semaine prochaine. Donc, le Forge 920, le concept, c'est quoi? Pourquoi 920? Parce que c'est joué de 9h à 20h. Donc 920. Donc Forge 920, c'est un dimanche. Ça commence à être un élément récurrent qui s'installe de manière mensuelle. On en profite pour inviter différentes associations, mais surtout proposer à tout le monde un autre temps de jeu qui dure toute une journée pour y faire une activité dans une temporalité autre que le vendredi soir, donc peut-être avec un temps d'installation plus long, avec une explication de règles pour les copains ou autre quoi.
Des gros wargames par exemple.
Des gros wargames.
Avec plein de dés.
voilà. Et aussi l'opportunité, parce qu'on boude plus notre plaisir à recevoir des gens de l'extérieur à travers des tournois ou des journées spécifiques. Donc le calendrier de ces journées Forge 901, c'est 12 décembre, on est sur du jeu libre. Vous venez avec ce que vous voulez, parce que le 24 décembre, c'est un vendredi, et on ne se verra pas, parce que tout le monde sera sur la, voilà, à autre chose.
Ni le 31.
Et le 31, même chose. Donc on ne va pas se voir pendant 3 semaines. Donc sous l'impulsion de certains membres du bureau, on vous propose un Forge 920 le 12 décembre. Voilà.
Yeah.
Alors, il y avait une demande pour en faire un le 26.
furieux.
Ouais. Alors,
mes cadeaux de Noël, je les ai remontés.
J'ai pas répondu au 26 pour un principe simple. C'est les vacances scolaires. Et le centre social étant ce qu'il est, on a beaucoup de difficultés à avoir une visibilité sur tous les plannings des différents animateurs sur ces périodes-là. Donc, je l'ai déjà dit, les Forges 901 durant les vacances scolaires, je préfère éviter. Ensuite, on aura le 30 janvier. Donc, 30 janvier, c'est pour répondre au défi Malifaux. Donc, il y a un défi Malifaux en interne qui est de peindre 35 points. Au 31 décembre
350 points, tu dis direct.
35 points.
C'est pour pardon.
35 points. Au 31 janvier, donc 35 points full pain pour jouer à Malifaux. Et on organise du coup le 30 janvier, même les retardataires, normalement, ils seront opérationnels, une journée Malifaux qui sera pas un tournoi. L'objectif, c'est vraiment de jouer ensemble à Malifaux, mais pas forcément que à Malifaux. Mais bon, c'est une journée dédiée, c'est toujours l'opportunité de faire une journée sympa. Et le 27 février, on retrouve Letchai aux commandes d'un tournoi Star Wars Légion.
Comme ce qu'on a eu en fait en novembre.
C'est un par trimestre. Voilà, on est parti là-dessus, un par trimestre.
24 joueurs
24 joueurs.
22 joueurs la fois dernière.
22 joueurs. 22 joueurs, là ça sera 24. Ils sortiront de, je crois, leur tournoi national, quoi, qui doit être début janvier, je crois. Enfin bref, voilà. En tout cas, ça devient un élément récurrent, puis un rendez-vous pour cette communauté-là. Et grosse news, je suis en train de mettre au point un truc pour le mois de mars. Ça s'appelle les Batailles Fantastiques. Je suis en relation avec un gars qui s'appelle Spartan Hervé, qui organise les Batailles Fantastiques, qui sont une narration à travers toute la France d'une campagne narrative AOS, où le gars fabrique des décors spécifiques pour des week-ends jeux dédiés. Donc ce type-là, La Forge va l'inviter. Il est déjà en train d'établir sa ligne narrative. Il fabriquera des décors spécifiques pour nous. Donc évidemment qu'on prendra en charge, c'est nous qui allons payer l'ensemble des éléments et des frais. Il va bosser pour nous, il va nous écrire une trame narrative et il va venir faire le MJ pour nous. Donc,
mais c'est trop bien.
Place limitée, inscrivez-vous avant ce soir.
Alors, j'ai ouvert une discussion sur le forum. Ne ratez pas l'opportunité de vous manifester. Parce que derrière, si j'ai que 10 personnes qui se manifestent, je book 10 personnes et pas 11. et les 14 qui restent, on va les chercher en externe. Pourquoi ? Parce que le financement il est assez dur sur ce type d'événement, compte tenu du déplacement du gars, il vient avec tous ses décors, ses tapis, son matos, machin, etc. Puis lui, bon, il consacre du temps. Donc, évidemment, il y a une rémunération qui est donnée non pas à lui en tant qu'individu, mais à son asso, parce que lui, ils n'ont pas de locaux et ils sont itinérants. Donc ça, c'est un projet que je suis en train de développer pour le mois de mars. On verra ce que ça donne, si ça rencontre un véritable écho. Pour l'instant, j'ai 10 personnes qui se sont manifestées.
Donc c'était un teasing en avant-première, en fait, hein, que tu annonces ça, parce que personne de la forge n'était au courant.
Bah voilà. Si, il y a un post sur le forum.
Ouais, mais il n'y a rien écrit dessus.
Si, si.
C'est vrai.
Il y a écrit que c'était un truc narratif organisé par un mec extérieur.
Moi, j'ai vu en construction.
Et qu'il fallait s'inscrire.
J'ai regardé trop vite, c'était écrit en construction.
Ouais, alors la date du 20 mars, c'est en construction. Par contre, le qui est Bataille Fantastique, voilà, il y a une discussion spécifique. Je suis en train de tout coordonner, mais bon voilà, je suis en train de reboucler. Vous avez encore un peu de temps, hein, 4 mois. Alors par contre, le format de bataille, ça sera 2250. Si vous n'avez pas les points, d'accord, c'est pas des armées optimisées ce qu'il faut. Parce que derrière, c'est une trame narrative, j'insiste. Si vous n'avez pas les points, que c'est pas du full pain, parce qu'on jouera que en full pain. Il n'y a aucune figurine qui sera non peinte sur ces tables-là, c'est hors de question, et c'est interdit par règlement.
C'est beau.
Donc c'est réglé.
Bravo.
Tu la poses pas. Si vous êtes en difficulté, c'est le moment de se mobiliser pour faire de la peinture. Voilà, c'est...
Il
reste 4 mois, c'est maintenant qu'il faut le faire.
Il manque une unité.
Voilà. Ne ratez pas ce rendez-vous, vous allez avoir les boules, en fait. Si vous êtes un joueur AOS et que vous n'y êtes pas, vous allez avoir les nerfs. Je vous le garantis, vous aurez les boules de ne pas y être. Donc, je rappelle...
2250 pour le 20 mars, c'est ça ?
Le 20 mars.
Le 20 décembre, c'est fait. Greg, tu prends les commandes ou pas ? T'as le temps de faire 5-6 armées d'ici là.
Donc, si vous avez vraiment des soucis, demandez à Greg.
Sollicitez-le, s'il l'a dit. Hein.
Après, j'ai du stock. Hein, mais, alors, pour rebondir là-dessus, je l'ai noté d'ailleurs, je rappelle que dans l'armoire, il y a énormément de matériel de peinture à disposition. Donc, vous pouvez venir peindre sur un Forge 920. Il y a de la chiméra à tester, il y a de la contraste, on a également des aérographes. Donc si vous êtes intéressé pour faire une découverte d'aéro, toujours la même chose, saisissez le bureau, on organisera un petit temps de présentation de ce qu'est un aérographe, et puis histoire de démystifier un peu l'objet. Voilà. Et je rappelle qu'il y a la boîte à bits également. Voilà, donc les pièces détachées qui sont à dispo. Le principe, vous le connaissez, je vais laisser Dim l'expliquer.
Bah, vous ramenez des trucs pour mettre dans la boîte à bits, et vous pouvez en reprendre des trucs dans la boîte à bits.
Voilà, c'est tout simple. D'accord. Donc celui qui prend...
Tu fous dedans, tu prends dedans.
Voilà.
Voilà.
Et ce qui prend pris, ça finit sur eBay au bout d'un an.
Voilà, c'est à peu près ça l'idée, voilà. Donc,
c'est circulaire comme économie, quand même.
Ouais,
c'est
bien. Bah voilà.
C'est vertueux, c'est bas carbone.
L'intérêt de ce truc-là, c'est d'aller vers un maximum d'animation, puis de proposer quelque chose qui permette à tous les joueurs de se rencontrer. Quoi. Voilà. Parce qu'on a quand même pas mal de nouveaux, hein, aussi, donc pour les intégrer au groupe.
C'est une bonne idée. Ouais. Ok. Encore d'autres news, Greg ?
Ben, pour moi, c'est terminé. Là. Je crois que j'ai rien oublié. Je rappelle qu'il faut vous inscrire sur le planning.
Il faut être membre à la Forge Ludique, c'est trop bien.
En plus.
Que vous fassiez le jeu de plateau ou pas, planning.
Ouais.
Ok, d'accord. Merci beaucoup à tous. Alors du coup, si on n'a pas d'autres mots, on va terminer là-dessus. On a tenu l'heure, donc très bien. Donc merci à tous et puis du coup à la prochaine fois.
Salut.
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 Merci pour votre écoute.
Et à la prochaine.